Gaston Bachelard, Radio. Aujourd'hui, souvenirs et rêveries de la campagne.
J'ai une chambre assez silencieuse, mais j'ai aussi le sommeil délicat. Et quelquefois, tout de même, les bruits de la rue viennent me dire « Oh mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas moi aussi habité un château ? Pourquoi n'ai-je pas un bel appartement dans les grands quartiers ?» Après tout, la fonction que j'avais m'aurait permis peut-être d'atteindre ce confort. Alors, je suis pris d'une tranquillité, de champenois, du motet bien ici, puis je regarde dedans, écoute dedans le vent qui descend de la montagne, il descend peut-être d'une vraie montagne, de la colline de Saint-Germain. C'était comme ça que ça soufflait dans ta jeunesse, et aussitôt, il me dit, et pourquoi pas?
À Paris, il n'y a pas de maison. Dans des boîtes superposées, vivent les habitants de la grande ville. Notre chambre parisienne, dit Paul Claudel, entre ces quatre murs, est une espèce de lieu géométrique, un trou conventionnel que nous meublons d'images, de bibelots et d'armoires dans une armoire. Le numéro de la rue, le chiffre de l'étage, fixe la localisation de notre trou conventionnel. Mais notre demeure n'a ni espace autour d'elle, ni verticalité en elle. Sur le sol, les maisons se fixent avec l'asphalte pour ne pas s'enfoncer dans la terre. La maison n'a pas de racines. Chose inimaginable pour un rêveur de maison, les gratte-ciels n'ont pas de cave. Du pavé jusqu'au toit, les pièces s'amoncellent et l'attente d'un ciel sans horizon enclôt la ville entière. Les édifices n'ont à la ville qu'une hauteur extérieure. Les ascenseurs détruisent les héroïsmes de l'escalier. On n'a plus guère de mérite d'habiter près du ciel. Et le chez-soi n'est plus qu'une simple horizontalité. Il manque, aux différentes pièces d'un logis coincé à l'étage, un des principes fondamentaux pour distinguer et classer les valeurs d'intimité. Au manque des valeurs intimes de verticalité, il faut adjoindre le manque de cosmicité de la maison des grandes villes. Les maisons n'y sont plus dans la nature. Les rapports de la demeure et de l'espace y deviennent factices. Tout y est machine et la vie intime y fuit de toutes parts. Les rues sont comme des tuyaux où sont aspirés les hommes. Et la maison ne connaît plus les drames d'univers. Parfois, le vent vient briser une tuile du toit pour tuer un passant dans la rue. Ce crime du toit ne vise que le passant attardé. L'éclair, un instant, met le feu dans les vitres de la fenêtre. Mais la maison ne tremble pas sous les coups du tonnerre. Elle ne tremble pas avec nous et par nous. Dans nos maisons serrées les unes contre les autres, nous avons moins peur. La tempête sur Paris n'a pas, contre le rêveur, la même offensivité personnelle que contre une maison de solitaire. Gaston Bachelard, La poétique de l'espace.
Enfermé dans ces quatre murs que vous connaissez bien, puisque vous y êtes toujours venu, et ce n'est pas tout de même une promenade au bord de la Seine qui vous montre vraiment ce que c'est qu'une rivière. Une rivière n'a pas le droit d'être enfermée dans une ville. Par conséquent, le long des quais de la Seine, dans ma foi, vous me souvenez un petit peu de l'aube. La Seine rivière, qui évidemment je considérais comme libre, qui sautait par-dessus les barrages, n'est-ce pas, qui avait les crues, et qui avait aussi ces périodes de sécheresse. Et ceci, nous sommes dans un fleuve canalisé.
C'était donc chez lui, dans cette espèce de petit 12 mètres carrés de sa chambre, bureau, enfin tout, sauf la cuisine, bien
sûr. Place Maubert.
Place Maubert, de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève.
C'était rempli de livres.
Jusqu'au plafond, c'était entassé, je me demandais comment il s'en sortait. Il y avait une armoire, dans l'armoire, il y avait des livres quand même plus choisis, puis il y avait une chose que j'ai aperçue un jour, dans laquelle je n'ai jamais mis le nez, mais qui doit être alors... Une chose fantastique, c'était les cahiers d'un journal. Car il existe un journal de Bachelard.
Ah, il existe un journal inédit, donc.
Ah,
oui, secret.
Bah, oui.
Donc vous pensez qu'il aurait aimé le voir publié un jour ou...
Je ne crois pas.
Jean Lescure.
Je ne crois pas. Non, Bachelard n'aurait sûrement pas aimé le voir publié. Et je pense que sa fille, que Suzanne Bachelard, a raison de ne pas le rendre public, de ne pas le livrer à la curiosité. Cela dit, je pense que quand même ce journal ne sera pas détruit et que il sera donné à une bibliothèque avec les manuscrits de Bachelard.
Alors donc le lieu, c'était
alors,
cette,
le lieu,
cette
c'était
chambre
donc cette petite,
minuscule bourrée de livres.
Toute petite chambre à laquelle on accédait par un petit couloir. La porte d'entrée ouvrait sur ce couloir. Devant, il y avait la cuisine. On allait à gauche, quand on entrait, il y avait la chambre de Suzanne. Et à droite, il y avait donc cette chambre bureau de Bachelard qui donnait, non pas du tout sur la place Maubert, mais sur le début de la rue Monge et de la rue de Montagne-Sainte-Geneviève.
Vous me demandez, en somme, comment j'ai un peu le constitué de la nature. Ici, n'est-ce pas?
Ici.
Entre ces quatre murs entourés de livres, n'est-ce pas? En face du marché de la place Maubert, où je me plais beaucoup, c'est entendu. Mais je l'ai fait par un mélange, alors, de souvenirs et de rêveries. Et c'est le problème que...
C'est ça, c'est...
Que vous voudriez que
comment,
nous gagnions... Oh, ben,
comment la comment, rêverie et le comment, souvenir s'allient
oh, est-ce qu'ils s'allient, est-ce qu'ils ne se mélangent pas, n'est-ce pas? Vous voyez? Et surtout, je n'ai pas eu l'audace de faire des livres directs. J'ai jamais trop dit ce que je pensais, comment je constituais, moi, les images. La seule aptitude que je puis m'accorder, c'est qu'ayant tellement aimé les images des autres, ben, je me suis appris à un amour de l'image et à la façon, si vous voulez, de se servir de l'image pour se réconforter. Et alors, je me suis tombé dans une espèce de romantisme de l'image. Et maintenant, l'âge venant, c'est du côté du romantisme allemand que j'ai le plus d'inspiration. N'est-ce pas?
Oui.
Voilà un fait. Maintenant, c'est une inspiration de l'ivresse que je voudrais. Je voudrais naturellement avoir vécu autrement, avoir chanté ma colline quand je gravissais les pentes. Il y a des forêts merveilleuses autour de Bar-sur-Aube. On a fait des promenades, j'ai fait des promenades qui ont marqué ma vie, de toutes les façons. Seulement, en ce temps-là, je me contentais d'être un bon marcheur, n'est-ce pas, et de m'arrêter au bistrot pour boire le vin que je ne peux plus me procurer, puisqu'on en fait du champagne pour Américains.
C'est en 1962 qu'a eu lieu cette conversation entre Gaston Bachelard et le poète Jean Lescure, fondateur de la revue Message. Bachelard a déclaré un jour publiquement que c'est à sa rencontre avec Lescure en 1939 qu'il faut imputer le parti qu'il prit de consacrer aussi sa vie à l'imaginaire et à la poésie. Une amitié entre les livres, une amitié de ville, a lié les deux hommes jusqu'à la mort de Bachelard. Mais c'est un autre grand ami, un aîné, Gaston Roupnel, et un autre paysage, rural cette fois, que Bachelard évoqua ce jour-là avec Lescure dans la chambre envahie de livres. Bourguignon, homme de la terre, homme de la vigne, Gaston Roupnel a publié en 1932 une histoire de la campagne française qui développe une réflexion géographique et ethnologique, résultat d'observations personnelles patiemment poursuivi à même le sol durant 30 années. Bachelard a aimé Roupnel, il a souvent été fasciné par le mouvement de sa pensée et il a du reste consacré en 1932 un long texte, L'intuition de l'instant, à un autre livre de Roupnel, livre de méditation sur le temps, livre anti-bergsonien, intitulé Siloé. En exergue du premier chapitre de L'intuition de l'instant, Bachelard a mis une citation de Samuel Butler, qu'on peut lire à la fois comme une allusion à l'amitié profonde qu'il y a les deux hommes, mais aussi, puisqu'il est question de temps, et qu'est-ce que le présent si ce n'est le temps de ma parole, à l'instant précis où j'évoque cette amitié. Nous aurons perdu jusqu'à la mémoire de notre rencontre, pourtant nous nous rejoindrons, pour nous séparer et nous rejoindre encore, là où se rejoignent les hommes trépassés, sur les lèvres des vivants.
Gaston Roupnel était un homme qui avait 14 ans de plus que moi, mais nous avons, laissez-moi vous dire, été tout de suite en sympathie de modestie. C'est l'homme le plus modeste que j'ai jamais connu, n'est-ce pas? Ajustant son par-dessus, son allant doucement, marchant lentement. Et puis alors, il était moitié professeur d'histoire, puisque c'était sa fonction, moitié marchand de vin. Et laissez-moi vous dire, on va mettre trois moitiés pour un. Et il était poète, n'est-ce pas? Il écrivait avec une beauté, une tranquillité qui m'a ravi. Et puis alors, c'est avec lui que je suis allé faire quelques promenades. Il m'a expliqué. Bon, ne disons pas la Bourgogne, mais la campagne française.
Dans cette campagne, aux aspects fertiles et aux formes utilitaires, nous aimons surtout à regarder aux choses inactives qui nous parlent sans calcul. Nous y aimons d'instinct les lieux désaffectés et les vieilleries inutiles. Tout ce qui porte la teinte grise des dénuements et des abandons, tout ce qui semble l'indolence d'un passé et d'un souvenir. Ce sont de bien humbles choses à les considérer chacune isolément. C'est un vieux chemin de rocaille opiniâtre qui s'en va sans but et sans rôle, flairé sous les buissons, et rôdé sur la friche appauvrie. C'est un vieil orme, isolé dans les champs, étêté et difforme, et qui semble arrêté par l'accablement de la solitude, fixé par le poids du silence. Ce sont des buissons perdus sur les étoiles, et que les charrues ont assaillis sans les réduire jamais. Ce sont des meurgés de pierre, où tout dépérit. C'est un tas de rocailles qui meurtrit le globe. C'est une marge lépreuse auprès d'une route trop neuve. C'est un arbre qui se penche, c'est une ruelle qui se dérobe, un seuil qui s'efface, une ruine sous les ronces, un coin vide dans les champs, une tache blafarde sur les brins labours, un pan dénudé sur le solennel horizon, ou un simple petit sentier qui meurt à même sous les pas. Toutes ces choses, qui dénoncent de coupables abandons et de mortelles indifférences, sont les témoignages de vie et d'activité créatrice de l'homme ancien. Gaston Roupnel, Histoire de la campagne française.
Roupnel, son père avait été chef de gare à Gevrey-Chambertin et il avait acheté des vignes dans les meilleurs crus de Chambertin. Je suis allé faire avec ma fille, toute jeune, la vendange, n'est-ce pas, Roupnel, son fils, sa femme, et Suzanne et moi, n'est-ce pas. Et puis alors, un porte-route qui venait évidemment vider nos paniers. Et alors, de temps en temps, m'expliquait. Il me disait, tenez mon cher, n'est-ce pas, je voudrais savoir l'imiter, mais enfin, vos appareils ne peuvent pas avoir ces finesses. Il me parlait tout doucement, lentement, et il me disait, si vous allez à gauche de la route de Beaune, le vin ne vaut rien. À droite, c'est tout de même du Bourgogne. Et alors, il me disait, mais une toute petite inclinaison, ça suffit. N'est-ce pas? Ça suffit pour concentrer le soleil.
Rien de plus local, rien de plus dialectal que le nom, et que l'être des vins. Aux bords méridionaux où les raisins sont lourds, le vin rouge borde vraiment la mer méditerranéenne, grand empire du milieu, du règne dionysiaque. Écrasés de culture classique, nous oublions le dionysisme de la vivacité, le dionysisme du vin blanc. Nous ne rêvons pas devant des vins plus circonstanciés, les vins qui individualisent les coteaux. La médecine alchimique savait cependant allier l'universel et le particulier, reconnaître le vin cosmique dans le vin individualisé. Elle souhaitait souvent faire correspondre un vin à un organe, la couleur d'un vin, aux précises réactions, déterminer un diagnostic. La gamme des vins blancs éveillait tant de subtilités organiques. Et qui nous chantera, par exemple, les vins du regard, tendresse et malice, vin qui taquine en aimant, vin de mon pays, vin qui unit les provinces et qui ferait dans une douce ivresse géographique un confluent de l'Aube et de la Loire. Les vins de Bar-sur-Aube approchent de bien près en couleur, saveur et bonté au vin de l'Anjou. Ils sont clairés et fauvelets, subtils, délicats, friands et d'un goût fort agréable au palais, approchant à la framboise. Que de fois ainsi la vigne, reine des simples, prend le parfum d'une de ses douces suivantes comme la framboise, d'une de ses rudes servantes comme la pierre à fusil. Le vin est vraiment un universel qui sait se rendre singulier, s'il trouve toutefois un philosophe qui sache le boire. Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos.
Gaston Rupnel, Histoire de la campagne française. En général, chaque agglomération française avait donc jadis son modeste vignoble. Sur les coteaux voisins, sur les pentes propices qui dominaient le village, s'étendait la foule des petits enclos. Ces versants roides et riants, ombragés de fruitiers, ouvragés de treilles et de jardinets, la vigne les escaladait de murets en murets, de grimpettes en grimpettes, capricieuses, échevelées, pampres au vent et au soleil. Ce vignoble, morcelé et difficile, donnait ce qu'il pouvait. Mais on en avait tant de soin et d'amitié qu'il finissait par trouver son soleil, rougir son pinot, dorer son aligoté ou son chasselas. Et, bon an, mal an, au risque d'un brin d'acidité, le vignoble du village donnait son petit vin clairé. L'étranger en faisait fi, mais les bonnes gens du pays y reconnaissaient et y aimaient la probité et la vivacité des lieux. Entouré de cette ceinture de coteaux heureux, de cette parure d'ouvrages ensoleillés, le village prospérait, et la vigne était de tous les pays, comme le vin était de toutes les fêtes. Cependant, depuis longtemps déjà, un mouvement d'adaptation se préparait dans le vignoble français. La construction des routes au XVIIIe siècle, et surtout la construction des chemins de fer au XIXe, ont permis aux régions vouées spécialement à la vigne d'expédier ou même d'exporter leur vin. Elles ont pu développer ainsi leurs vignobles, améliorer les rendements, les qualités et les prix, et se saisir de tout le marché. Partout au contraire, où la vigne aventurée risquait les gels tardifs et les maturités inachevées, le vigneron, lassé des mauvaises années, ruiné par une concurrence victorieuse, abandonnait la partie. La crise phylloxérique acheva sa déroute. La vigne a quitté les petits pays qu'elle aimait peu et où on l'aimait tant. En se retirant, elle a laissé derrière elle les ruines. Dans le nord, où elle n'était qu'une intruse, la terre fut tout de suite reprise par les occupants légitimes. Dans l'ouest, depuis longtemps abandonnée par le vignoble, la réparation a eu le temps de se faire. Sur ses côtes sans raideur, sur ses pentes molles, le villageois du Maine, du Perche ou même de la Bretagne a installé ses champs, ses jardins et ses vergers. Mais dans l'est et le centre, les prospères coteaux qui entouraient le village d'un vert vignoble sont maintenant des lieux d'abandon. La ceinture de treilles est devenue ceinture de buissons. Les petits enclos où la vigne mûrissait ses grappes roses ou blondes entre les groseilliers, les rosiers et les ruchers se sont emplis de ronces et d'épines. Les murets se sont écroulés, les fruitiers ont dépéri ou dégénéré, et les abeilles ont quitté ces ruines sans fleurs.
Et alors, m'expliquer où finissaient les forêts. Il m'expliquait que les forêts n'étaient pas... Il était impossible de les bouleverser, au moins de les détruire, ce qu'on fait maintenant, n'est-ce pas? Mais enfin, vous voyez... Et c'est un homme délicieux. Hein, Suzanne était toute petite, mais oh, il délègue toujours la petite Suzanne. Vous verrez, c'est pas. Et alors, pas eu le malheur de la toucher, donc je ne vais pas vous parler. Et cet homme m'a fait, enfin, une impression de bonté, hein, profonde. Il était bien entendu adoré de tous ses élèves, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas parler de Rouquenel dans la génération qui lui a connu, les élèves qu'il a connus, sans remarquer que ce n'était pas un homme comme les autres.
Mais dans ces promenades que vous faisiez avec Rouquenel, vous venez de nous parler de l'enseignement quasi-géographique, oui, d'une géographie très particulière, qui est, oui, celle de Rouquenel, c'est-à-dire d'une sorte de géographie essentielle des choses, n'est-ce, oui, pas, où, comme vous le dites, la forêt est ce qu'elle doit être, ne peut pas être facilement modifiée.
Oui.
Mais ce n'est pas tout à fait une géographie imaginaire. C'est comment cet être des choses, cet être des choses naturelles, cet être de la forêt, cet, oui, être de la terre, oui, rejoint l'imaginaire. Comment vous, de cette leçon des choses extérieures, vous avez fait cette leçon des choses intérieures qui nous a tellement touchés, nous autres.
Ben, je n'ai pas dit tout ce que j'aurais pu dire sur les bois, mais ma sentimentalité, mon sentiment là-dessus ne vient pas de Rouquenel. Rouquenel me montrait, si vous voulez, le destin... Enfin, de la campagne française, le fait qu'elle avait été inscrite il y a 300 ans, 200 ans, et qu'elle n'était pas modifiable. Bon, ça, il se trompe maintenant, étant donné qu'on fait des routes qui peuvent évidemment déplacer des maisons et tout, et puis l'espèce de siècle de la vitesse où nous venons d'entrer ne permet pas évidemment de promener à pied, on ne fait plus se promener sur une route française. Bon. Non, mais puisque vous faites appel à mes souvenirs des forêts, si chez moi, si à Bar-sur-Aube, étant enfant, enfin, j'ai connu les bois sur les plateaux. Il y avait un bois mystérieux qu'on appelle bois des dames. Et alors, ma mère surtout me disait, j'avais le droit de me promener, mais pas dans la forêt des dames parce qu'on s'y perdait. Hein. J'ai dû dire dans une page, je ne sais où, dans ce bois, mon grand-père s'y est perdu, n'est-ce pas? Mmh. Mon grand-père s'y est perdu.
Qui nous dira la dimension temporelle de la forêt? L'histoire n'y suffit pas. Il faudrait savoir comment la forêt vit son grand âge, pourquoi il n'y a pas, dans le règne de l'imagination, de jeunes forêts. Pour moi, je ne sais méditer que les choses de mon pays. Je sais vivre, Gaston Rouquenel, l'inoubliable ami, me l'a appris, la dialectique des étendues champêtres et des étendues boisées. Dans le vaste monde du non-moi, le non-moi des champs n'est pas le même que le non-moi des forêts. La forêt est un avant-moi, un avant-nous. Pour les champs et les prairies, mes rêves et mes souvenirs les accompagnent dans tous les temps du labour et des moissons. Quand s'assouplit la dialectique du moi et du non-moi, je sens les prairies et les champs avec moi, dans l'avec-moi, l'avec-nous. Mais la forêt règne dans l'antécédent. Dans tel bois que je sais, mon grand-père s'est perdu. On me l'a conté. Je ne l'ai pas oublié. Ce fut dans un jadis où je ne vivais pas. Mes plus anciens souvenirs ont 100 ans, ou un rien de plus. Voilà ma forêt ancestrale, et tout le reste est littérature. Gaston Bachelard, La poétique de l'espace.
Gaston Rouquenel, Histoire de la campagne française. La forêt est la formation végétale naturelle en France, notamment dans la France de l'Ouest. Mais cette forêt naturelle n'est pas le bois de taillis, elle est la futaie. La forêt originelle était essentiellement composée d'arbres de grande venue. Le chêne et le hêtre y avaient une prépondérance heureuse. Le tremble et le bouleau, le frêne et le pin y alternaient par petits groupes, où y intervenaient en individus isolés. Le sureau, le saule et l'aulne prospéraient aux clairières ou aux lieux humides. Les épines et les ronces garnissaient les lisières et les plaques rocheuses. Les genêts, les fougères et les ajoncs couvraient le sol ombragé. Sous les dômes élevés de cette puissante sylve, entre les fûts des grands chênes et des hêtres, la circulation était aisée et les troupeaux y avaient libre parcours. C'est cette forêt majestueuse et fraîche, emplie de circulation et d'ombre, qui s'accommoda si complètement de l'homme et qui de tout temps lui prêta ses abris et lui offrit ses ressources. En bien des régions, la forêt était jadis occasion d'entente, en réunissant dans la possession des mêmes coutumes les villages qu'elle semblait séparer. Elle était aussi un monde, avec sa vie particulière. L'été, le pâtre y conduisait ses troupeaux, mais c'est l'hiver surtout que ces solitudes boisées s'animaient d'une foule de gens, bûcherons, charbonniers, chasseurs, charroyeurs, sabotiers, arracheurs d'écorce, fendeurs de pinceaux, cendriers et verriers, forgerons et mineurs, fabricants de bardeaux, carriers, scieurs, commis de coupe. Et cela sans compter la foule des rôdeurs, des faux-sonniers et des vagabonds. Beaucoup de ces rudes métiers se prêtaient assistance, et la forêt développait ainsi en elle, aux confins de la vie villageoise, de salutaires associations ou d'équivoques ententes. C'est dans son sein antique, empli des rappels et des souvenirs de la vie indocile, que venait se réfugier la secrète rumeur et l'activité échappée des contraintes sociales. L'homme du Moyen-Âge a aimé la forêt autant qu'il a vécu de ses champs.
C'était Souvenirs et rêveries de la campagne. Gaston Bachelard, Jean Lescure, 1962. Document Jean Lescure. Entretien avec Jean Lescure, 1982. Texte, Gaston Bachelard, Gaston Roupnel. Voix, Claude Royer-Journoux, Michel Cohen. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Collaboration technique, Michel Gallou. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique, deuxième partie. Archives 1947-1962. Cette semaine, philosophie de l'atome. Dans l'histoire des sciences, le terme de philosophie de l'atome peut se justifier de ce que, entre la lutte contre un rationalisme sclérosé, étroitesse de vue, fixité des savoirs, généralité pseudo-universelle, son fameux obstacle épistémologique, une éthique de la sérénité d'autre part, et une esthétique du clair-obscur, enfin, se nouent et se dénouent les trois principaux cycles bachelardiens. Sans doute, il s'agit de donner à la science la philosophie qu'elle mérite. Mais si l'analyse des œuvres scientifiques peut faire l'objet d'un traitement authentiquement philosophique qui n'aille pas au-delà des connaissances d'un professeur, elle exige de lui un investissement exactement semblable à celui déployé dans l'analyse de l'art. Bachelard, ici encore, en témoigne le premier. Aujourd'hui, hommage à Einstein, mécanique et relativité, suivi de aspects philosophiques de la relativité. Gaston Bachelard, 1955.
Kolesov considère les révolutions de la pensée scientifique que la mécanique relativiste, la mécanique quantique et la mécanique ondulatoire ont entraîné en un quart de siècle, il ne peut manquer d'être frappé que des expériences si particulières et des mathématiques aussi abstraites aient pu avoir de si profondes et de si lointaines répercussions. En trois causeries, je voudrais essayer de montrer l'importance philosophique de ces trois doctrines. Commençons aujourd'hui par la relativité. La mécanique classique possédait un principe de relativité. Pour Galilée, pour Newton, il était clair que le mouvement d'un corps devait être étudié relativement à d'autres corps qu'on suppose en repos. Les mouvements des projectiles, les mouvements des oiseaux, les mouvements des nuages pouvaient être repérés par rapport à la Terre supposée immobile. Dès qu'on abordait les mouvements astronomiques, on considérait depuis Copernic la Terre comme en mouvement relatif autour du Soleil supposé immobile. Cette relativité de la mécanique classique apparaissait d'ailleurs comme une conséquence du principe d'inertie qui s'énonce ainsi. Les phénomènes physiques sont les mêmes dans deux systèmes au repos, l'un par rapport à l'autre, et aussi entre deux systèmes en mouvement uniforme, l'un par rapport à l'autre. Autrement dit, par les phénomènes mécaniques, on ne pouvait trouver le mouvement absolu non plus que le repos absolu. Le mouvement d'un corps apparaît toujours relatif à d'autres corps. Sur cette base, durant près de trois siècles, la mécanique classique a permis une organisation parfaite du savoir touchant les phénomènes mécaniques et astronomiques. Les difficultés se sont présentées non pas à propos de phénomènes mécaniques, mais à propos des phénomènes de la lumière. Depuis le premier quart du XIXe siècle, on s'était peu à peu convaincu que la lumière était un phénomène ondulatoire, que les ondes du mouvement de la lumière étaient transmises par un milieu doué de propriétés élastiques. C'était l'éther. Cet éther emplissait donc les espaces interstellaires. C'était lui qui nous portait la lumière des étoiles. On était alors tout naturellement amené à penser que cet éther, qui emplissait tout l'espace, était en quelque manière l'espace réifié, un espace qui devait, dans son ensemble, pouvoir être considéré comme immobile. Bref, l'éther pouvait être pris comme un espace absolu. Dans l'hypothèse de l'existence de cet éther, on devait penser que les expériences qu'on faisait sur la vitesse de la lumière devaient pouvoir déterminer des variations de la mesure de cette vitesse. Par exemple, en se rapprochant, en allant vers la source lumineuse, on devait pouvoir ajouter à la vitesse de la lumière la vitesse mécanique de l'observateur. Michelson, un des plus grands observateurs de tous les temps, entreprit dès 1881 une longue série d'expériences pour vérifier cette addition des vitesses des ondes lumineuses d'une part et de la vitesse de l'observateur. Il monta un appareil que je ne décris pas puisque je veux me limiter à présenter dans cette causerie la ligne des concepts qui constituent la doctrine de la relativité. L'appareil de Michelson, d'une extrême sensibilité, ne put cependant déceler aucune variation. L'expérience fut refaite bien souvent dans des conditions très différentes. Jamais on ne peut déceler la variation qu'on devait attendre en s'appuyant sur l'hypothèse d'un éther immobile, d'un espace absolu. 20 ans durant, on chercha à rectifier, ou du moins à comprendre, cet échec de l'expérience. Le génie révolutionnaire et organisateur d'Einstein, en 1905, proposa de prendre comme un fait positif le résultat négatif des expériences de Michelson. Ces expériences sont minutieuses. Elles sont sûres. Concluons donc que la vitesse de la lumière a une valeur invariable, que la vitesse de la lumière est une constante universelle qui est une valeur limite pour toutes les vitesses. Mais comment concevoir qu'une vitesse qui se présente comme le quotient d'un espace parcouru par le temps nécessaire pour le parcourir peut avoir une limite? Nos idées les plus communes, les plus assurées aussi dans nos habitudes et notre culture, ne peuvent concevoir cette limitation. Qu'à cela ne tienne, Einstein va au bout de sa révolution et conclut que nos idées communes d'espace et de temps, valables pour nos expériences communes, ne sont plus valables pour les expériences raffinées qui mettent en jeu les vitesses approchant celles de la lumière. Le sens commun doit ici céder devant l'expérience scientifique raffinée. La psychologie doit céder devant la physique. D'autre part, on savait depuis Maxwell que la lumière est un phénomène électromagnétique. Maxwell avait donné les équations qui permettent de décrire les phénomènes électromagnétiques dans deux systèmes en mouvement l'un par rapport à l'autre. Pour passer d'un système à un autre, le physicien néerlandais Lorentz avait proposé une transformation algébrique qui était plus compliquée que la transformation de Galilée qui donne le passage d'un système mécanique à un autre en mécanique classique. Dans ces formules de transformation algébrique, s'introduit la nécessité de ne plus se fonder sur un temps absolu. Les notions d'espace et de temps doivent être modifiées, légèrement d'ailleurs, pour traduire exactement les conditions de la transformation de Lorentz. Einstein, qui perfectionna d'ailleurs les équations de Lorentz, comprit que ces formules n'étaient pas de simples artifices de calcul et qu'il fallait les prendre comme traduisant un aspect réel des expériences de Michelson. Le mathématicien Hermann Minkowski développa systématiquement cette mathématique du temps et de l'espace associés. Là prend naissance les considérations d'un espace à quatre dimensions. Il faut être prudent dans l'utilisation de cette synthèse si claire pour un mathématicien de l'espace et du temps. En fait, il reste une distinction entre l'espace et le temps. Un physicien aussi averti que Tolman parle toujours d'un espace à trois plus une dimension, refusant ainsi une assimilation complète. Il faut d'ailleurs souligner que les formules de transformation de Lorentz ne contredisent pas les formules de transformation de Galilée, elles sont seulement plus générales. On retrouve les équations de la mécanique rationnelle quand on ne considère que des vitesses habituelles très inférieures à la vitesse de la lumière. Je n'ai parlé jusqu'ici que d'une partie des doctrines de la relativité, celle qu'on appelle la relativité restreinte. Bientôt, Einstein proposa la relativité généralisée qui ne se bornait pas à considérer des systèmes en mouvement uniforme. Elle considère, cette relativité généralisée, le mouvement dans toute sa généralité. Elle est amenée alors à modifier non seulement les notions de vitesse, mais aussi les notions d'accélération et les notions de force. On ne peut guère exposer cette doctrine sans recourir à des mathématiques difficiles. sans se servir du calcul tensoriel. On doit considérer alors un espace-temps qui n'est plus euclidien, mais riemannien. Dans cet espace, la matière produit des déformations de l'espace. Dans cette région du savoir, la science est en pleine transformation. Les pensées théoriques sont multiformes, les hypothèses cosmologiques sont nombreuses. Nous devions donc nous limiter aux concepts fondamentaux de la relativité restreinte, de cette partie de la relativité qu'il faut maintenant appeler une relativité classique. On peut nous demander si la relativité est plus qu'une grande théorie, est plus qu'un beau chapitre de la physique mathématique. En fait, outre la cohérence rationnelle de la doctrine, les prédictions formulées par Einstein trouvèrent bientôt des confirmations expérimentales. La relativité explique l'avance du périhélie de la planète Mercure. Elle explique la déviation d'un rayon lumineux venant d'une étoile lointaine et passant très près du Soleil, déviation observée pendant une éclipse de 1919. Troisième succès, la relativité explique la modification d'un spectre lumineux venant d'une étoile. Mais ces phénomènes astronomiques peuvent paraître encore n'avoir qu'un intérêt purement scientifique. Pour conclure, j'attirerai l'attention sur une conséquence plus importante pour nous de la relativité restreinte. Conséquence d'une extrême importance philosophique. J'ai laissé de côté une des plus grandes découvertes d'Einstein. Il comprit dès 1905 que l'on devait conclure à une modification de la masse d'un corps dans des variations de sa vitesse. Corrélativement, il dut admettre que toute énergie a une masse. L'équation la plus révolutionnaire d'Einstein tient en une petite ligne. On peut l'écrire E égale m0c au carré. E étant l'énergie, m0 la masse au repos, c2 le carré de la vitesse de la lumière. Cette fois, on n'est pas seulement devant les phénomènes astronomiques que la relativité développe avec beaucoup d'esprit de finesse. Avec la loi E égale m0c2, la relativité, si l'on ose dire, entre au cœur du réel. On ne peut, sans cette loi, bien décrire les transformations du noyau des atomes, toute une physique nucléaire qui, pour tant de raisons, préoccupe les hommes de notre temps.
Gaston Bachelard, 1955.
Il est difficile de poser les problèmes philosophiques traditionnels au niveau de finesse et de rigueur où fonctionnent les doctrines de la relativité d'Albert Einstein. Ces doctrines, qui ont tant d'importance pour notre connaissance de l'univers, ne s'appliquent certainement pas au niveau de l'expérience commune. Les livres de vulgarisation peuvent nous tromper à cet égard. Rien de notre expérience personnelle touchant l'espace, rien de notre méditation du temps intime qui dure en nous, ne peut nous permettre d'aborder le domaine des preuves et des raisons où se forment les convictions du relativiste. Il faut donc suivre une longue ligne de culture pour en apprécier correctement le sens philosophique. Ainsi, nous sommes devant un véritable paradoxe de l'histoire des idées. Comment des idées, si mathématiquement et difficilement élaborées, ont-elles pu avoir soudain une action si révolutionnaire touchant notre conception du monde? La réponse tient en une phrase. Le caractère révolutionnaire des doctrines einsteiniennes provient du fait qu'elles touchent des notions de base. Ne considérons que l'espace et le temps. On peut dire, en employant une locution de Nietzsche, que la science d'Einstein a provoqué, à propos de ces notions, un tremblement de concept, comme si la Terre, le monde, les choses prenaient une autre structure, du fait même qu'on pose l'explication sur de nouvelles bases. Toute l'organisation rationnelle tremble quand les concepts fondamentaux reçoivent des définitions nouvelles. Mesurons, par exemple, la distinction qui existait avant Einstein entre les notions d'espace et de temps. Les philosophes les distinguaient en de lumineuses formules. Pour Leibniz, l'espace est l'ordre des coexistants, le temps est l'ordre des phénomènes successifs. Kant fait de l'espace une forme a priori de la sensibilité externe et du temps la forme a priori de la sensibilité interne. Bergson oppose encore l'intelligence du géomètre qui contemple les phénomènes extérieurs et l'intuition du philosophe qui connaît son être intime par une méditation du temps qui dure en lui. La science newtonienne elle-même s'appuie sur la notion d'un espace absolu, sur la notion d'un temps absolu. Donc, espace et temps sont absolument indépendants. Mais, à la fin du siècle dernier, du fait d'expériences d'une extrême délicatesse, les expériences de Michelson, Lorentz suggère des formules où temps et espace sont en légère corrélation. Einstein achève cette corrélation. Il fonde la doctrine de l'espace-temps avec un trait d'union entre espace et temps. Sans doute, le lien est ténu. Mais il suffit pour détruire le caractère absolu de l'espace et en même temps le caractère absolu du temps. En somme, au niveau des deux notions fondamentales de l'espace et du temps, il s'agit bien de la révolution la plus décisive puisque ces notions simples apparaissent dans des rapports complexes, puisque ces notions absolues sont l'une et l'autre frappé de relativistes par leur connexion essentielle. La relativité se forme notionnellement en ce point. Dans son origine, la relativité, ce n'est que cela, mais c'est tout cela. Vu de ce centre, les anciennes notions, les notions dites naturelles, apparaissent comme des notions frappées de dégénérescence. Si maintenant nous nous mettons à ce point de sensibilité extrême pour poser les problèmes philosophiques traditionnels, quelle étiquette allons-nous mettre à la philosophie d'Albert Einstein? Einstein est-il réaliste? Einstein est-il rationaliste? Comment refuserait-on à Einstein le titre de réaliste, à lui qui fut toujours attiré par les expériences de la physique de laboratoire? Comme il nous en fait confidence dans les notes autobiographiques qui précèdent l'ouvrage considérable Albert Einstein, philosopheur scientiste. Puisqu'Einstein se soumet à l'expérience, il se soumet bien entendu au réel. Mais ne faut-il pas demander aussitôt à quelle expérience, à quelle réalité, celle de l'infime décimale où se joue l'expérience de Michelson, ou bien cette tranquille réalité de la vérification visuelle, commune, grossière, qui ne s'encombre pas des soucis d'une telle précision. Il semble bien que le philosophe qui suit les enseignements de la relativité doit, pour le moins, envisager une nouvelle réalité, une réalité qu'on pense plutôt qu'on ne la touche, une réalité qu'on appréhende par un rationalisme très travaillé. Il faut alors, si l'on suit la leçon philosophique d'Albert Einstein, dénoncer à la fois le réalisme naïf et le rationalisme naïf. Soudain, c'est l'esprit de finesse qui révèle les fondements de l'esprit géométrique. Nous arrivons alors à une géométrisation des phénomènes physiques qui accomplit, avec le secours de tous les moyens de la mathématique moderne, un idéal qui était l'idéal de Descartes quand il fondait géométriquement son monde. Einstein résume parfois l'histoire en accouplant deux génies dans l'un est réaliste et l'autre rationaliste. Il indique dans son autobiographie les deux génies opposés et cependant parents, Galilée et Newton, et de même Faraday et Maxwell. Sur le thème de la géométrisation de l'univers, nous pourrions associer de même Descartes et Einstein. Mais la géométrisation de l'univers visée par Descartes était naturellement dans un espace à trois dimensions. Elle est, par Einstein, dans une géométrie à quatre dimensions, précisément dans l'organisation de la géométrie de l'espace-temps. Dans cet univers fondé sur une géométrie de l'espace-temps, tout est stable, bien organisé, on oserait dire bien dessiné, si précisément cette géométrie pouvait bénéficier de l'intuition sensible. Mais précisément, il faut entrer, pour comprendre Einstein, dans le règne d'une intuition tout intellectuelle, d'une intuition qui généralise les intuitions sensibles. Et voici peut-être le trait le plus captivant du génie d'Einstein. Quand il a pensé, appuyé sur les mathématiques les plus abstraites, le monde de la relativité généralisée, on peut dire qu'il est entré dans une véritable solitude de pensée. S'il est vrai que la solitude est la porte initiale du domaine philosophique, il faut dire qu'Einstein fut, en cet instant solennel de sa découverte, le philosophe le plus solitaire de tous les siècles. Il abandonnait le soutien du réel proche. Il formulait une organisation rationnelle qui pouvait être tout de suite dénoncée comme d'une extrême facticité. Historiquement, son système n'était point préparé. N'avait-il pas comme un remords d'abandonner les certitudes de la science classique? Dans le récit de sa vie intellectuelle, il écrit, comme un cri dans la solitude, cette phrase, « Newton, forgive me, Newton, pardonnez-moi, vous aviez trouvé la seule voie qui, à votre époque, était la seule possible pour un homme de la plus haute pensée et doué de la puissance créatrice. » J'ai cité Einstein. Ainsi, Einstein vénère les vérités de l'histoire au moment où il va rectifier l'histoire et relancer l'histoire dans des aventures nouvelles. Qu'est-ce donc qui a soutenu Einstein dans sa grande solitude de créateur? Nous trouverons peut-être la réponse à cette question dans un autre passage de son autobiographie. Quand il rencontre des travaux de Bohr sur l'introduction dans le domaine atomique de la mécanique quantique qu'il avait lui-même enrichi, il écrit « Ceci est la forme la plus haute de musicalité dans la sphère de la pensée. » On peut retenir ce jugement d'Einstein pour l'appliquer à Einstein lui-même. Ce rationalisme nourri de mathématiques les plus difficiles, tendu vers les expériences les plus précises, donne à l'esprit une telle satisfaction qu'on ne peut trouver de meilleurs termes pour le définir que ceux d'Einstein. Un tel système nous fait vraiment connaître la musicalité de la pensée.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962. Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard, bis, archive. 1947-1962, cette semaine, la philosophie de l'atome. Aujourd'hui, hommage à Einstein, mécanique et relativité, suivi de aspects philosophiques de la relativité. Bibliographie disponible sur franceculture.com, Isabelle Mézil, Bruno Nieftanski, Hervé Evano, Marc-Hubert Floriot.